Radio Okapi. Le journal en français, Jacques-Yves Molima.
Des affrontements se sont poursuivis hier lundi entre les FARDC et le M23 dans le territoire des Rutshuru. Les FARDC ont lancé une nouvelle offensive pour tenter de reprendre le contrôle de Tamugenga. Et puis plusieurs grandes artères et plusieurs quartiers dans différentes communes de la ville de Kinshasa, la capitale, étaient sous eau hier lundi. C'est la conséquence d'une grande pluie qui s'est abattue sur la ville. Enfin, 24 octobre, c'était la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Pour parler de cette maladie en RDC, nous recevons comme invité dans cette édition du journal, Dr Valentin Chitenge, secrétaire général de l'Association nationale des personnes vivant avec handicap. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Au Nord Kivu, des tirs d'armes lourdes et légères ont été encore entendus dans les après-midi d'hier lundi sur la ligne de front qui oppose les FARDC aux rebelles du M23. Selon plusieurs sources, alors que les rebelles du M23 tentaient de renforcer leur position vers Kanombe, groupement Kisigari, les FARDC ont lancé une nouvelle offensive pour tenter de reprendre le contrôle de Tamugenga. C'était entre 15h et 17h locales. Nos sources ajoutent que d'autres tirs ont été entendus sur l'axe Kabindi-Tiengerero autour de 13h. Jusqu'hier soir, Tamugenga était toujours occupé par les rebelles, précise la société civile. Toujours au Nord Kivu, les activités socio-économiques reprennent timidement à Maboya, une localité située à une trentaine de kilomètres de la ville de Beni, localité qui avait fait l'objet d'attaques des hommes armés identifiés comme appartenant au mouvement rebelle ADF dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Au moins 7 civils ont été tués et des dégâts matériels importants enregistrés. 4 jours après, André Kitenge, comment se présente la situation sur place?
À Maboya Centre, on peut s'apercevoir encore des stigmates de cette attaque avec les restes du centre de santé, des boutiques et magasins calcinés. Au moins la moitié des habitants ont quitté la localité pour d'autres endroits jugés plus sécurs, notamment à Mabuku, un village environnant de Maboya, et à Beniville. Selon un membre de la société civile locale sur place, la plupart de ces habitants ne sont pas encore retournés dans leur milieu par crainte d'une éventuelle attaque. Néanmoins, quelques activités socio-économiques ont repris timidement. Des boutiques et écoles qui ont été épargnées par l'attaque ont rouvert leurs portes ce lundi matin, indique Prince Kambale Moussavouli. Sur le plan sécuritaire, l'effectif militaire a été renforcé à Maboya pour sécuriser la population, indique le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1. Toutefois, la situation reste préoccupante. C'est pourquoi le chef du groupement Malio Bwanandeke appelle le gouvernement à renforcer les effectifs militaires autour de Maboya, qui paraît être une nouvelle cible de l'ennemi. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
On reste à Beni, dans le Nord Kivu. L'Ordre des médecins ainsi que le Syndicat national de médecins Sinamed de la ville et territoire de Beni viennent de décréter 3 jours de deuil à dater de ce lundi. Ceci est consécutif au meurtre du docteur Marie-Sylvie Kavouke la nuit du jeudi au vendredi dernier au centre de santé de référence Maboya lors d'une attaque attribuée aux ADF dans le village portant le même nom. Pendant ces 3 jours, il n'y aura que les infirmiers qui se rendront au service. En cas d'urgence, le médecin responsable de la structure pourra intervenir. Ces mots d'ordre figurent dans un mémorandum lu et présenté à l'autorité urbaine, à la mairie, où leur marche a chuté. Gulen Kassassia nous fait le point.
En silence, les médecins ont pacifiquement marché du rond-point du 30 juin jusqu'à la mairie de Beni. Sur les calicots, vous pouvez lire « Nous voulons la paix, nous fustigeons la mort de notre consort Sylvie Kavouke, que justice soit faite ». Les manifestants fustigent l'insécurité persistante de la région et qui a touché la communauté médicale. En conséquence, ils n'exigent rien que la paix pour rendre aisément leur métier, tel que contenu dans un mémorandum qu'ils ont lu et déposé à l'autorité urbaine. Docteur Godefroy Mbeho, secrétaire du Sinamed, a lu ce document dont voici l'extrait.
Au vu de la situation qui s'alise, Excellence Monsieur le Président de la République, les médecins de Beniville et territoire vous recommandent ce qui suit. La sécurisation de toutes les structures de santé sans condition aucune. Autoriser le port d'armes au personnel soignant dans les zones rouges pendant les heures de garde. Nous demandons à plus une réhabilitation à toute urgence des structures incendiées.
Le maire de Beni, le commissaire supérieur principal Mouteba Kachani Narcisse, qui a reçu leur mémorandum, leur a adressé ses compassions et les a encouragés de tenir ferme. Pour rappel, Dr Sylvie Kavouke est morte calcinée pendant l'attaque du village Maboya par les rebelles ZDF faisant perte d'hommes, descendit du centre de santé de référence Maboya où elle montait la garde. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, il a plu abondamment ce lundi ici à Kinshasa. Conséquence, des inondations ont été enregistrées dans plusieurs grandes artères et plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. C'est notamment le cas dans 9 des 18 quartiers de la commune de Makala, selon son bourgmestre Jean Onema. Des inondations ont aussi été enregistrées au quartier Boulamemba et Matebangaba sur l'avenue Rivière, au quartier Mososo Alimété et dans beaucoup d'autres coins de la ville, comme sur l'avenue Victoire à Matongé. Le bourgmestre de Lingwala fait le point de la situation de cette pluie dans sa commune. Daniel Wangu a été joint par Viviane Bissimwa.
Toutes les eaux qui viennent de Bandalungwa et de Kassavubu viennent stagner à Lingwala avant d'aller s'échouer dans la rivière de la Gombe. Croisement où il irait triomphal, c'est dur. Les véhicules ont du mal à passer puisque y a une forte inondation. Quand vous quittez là-bas, vous venez sur Kalembelembe de 24 vers Willeri, il y a des endroits où le VD a creusé des trous, ben il y a inondation terrible. Mouchi vers Sensei, Itaga, en tout cas, c'est difficile. Le problème qui nous préoccupe beaucoup, c'est le système de curage. Il nous faut curer les caniveaux et il nous faut créer aussi des nouveaux caniveaux. Il y a un problème de construction anarchique, hein. Les gens construisent aussi les caniveaux et tout le monde fait ce qu'il veut. Il y a ceux qui jettent des immondices dans les caniveaux et quand il y a la pluie, ces immondices-là vont barrer la route aux eaux qui vont aller vers rivière de la Gombe. C'est le problème que nous avons. Donc, nous avons un problème sur la salubrité. Il faut assainir normalement les caniveaux et puis demander aux habitants de Lingwala de ne pas jeter les immondices dans les caniveaux.
Et puis la cité de Lukala, dans les territoires de Mbanzangungu au Congo central, est sans électricité depuis plus d'un mois maintenant. Le transformateur qui alimente cette entité du Congo central est une fois de plus tombé en panne. La nouvelle société civile qui livre l'information indique que ce manque du courant est à la base de plusieurs soucis, dont la recrudescence de l'insécurité. Levier Mbiyavanga, son coordonnateur, appelle les responsables de la SNEL Congo Central à donner une réponse rapide et durable à cette situation. Le point avec Nana Plurich Mambou.
À la suite du manque de la fourniture électrique depuis plus d'un mois à la cité de Lukala, au quartier 1, 6, 7 et Malueka, les bandits profitent de l'obscurité pour voler les fils électriques en aluminium du réseau de la SNEL. Hormis cela, les vols à l'arraché par des motards, les incursions dans les habitations des bandits armés des machettes sont signalées dans plusieurs parties de cette contrée. Les petites et moyennes entreprises évendent à la vente les vivres frais en pâtissent aussi. Leurs marchandises ont pourri et bon nombre ont fermé leurs portes. Des entreprises dont l'administration est informatisée, notamment la régie des eaux et l'OCC, sont aussi secouées par ce manque du courant électrique. Selon Levien Biavanga, les transformateurs qui alimentent Lukala, déjà sujet à des pannes récurrentes, n'a jamais été changé après avoir été révisé deux fois. Pour cette énième panne, la population tient coûte que coûte au remplacement d'un nouveau transformateur. La nouvelle société civile à travers son coordonnateur Levien Biavanga appelle la SNEL à répondre avec promptitude à la demande de la population de Lukala. Les directeurs intérimaires de la SNEL Congo Central que nous avons contactés appellent la population de Lukala à prendre leur mal en patience. Isaac Mbemba a indiqué que la SNEL travaille pour remplacer sous peu un nouveau transformateur plus puissant que les précédents. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Autre nouvelle, au bout de deux mois, le gouvernement sera doté d'une feuille de route des justices transitionnelles en République démocratique du Congo. Un comité scientifique chargé d'élaboration de sa politique nationale a été installé ce lundi à Kinshasa par le ministre des Droits humains en collaboration avec le Bureau Congé des Nations Unies aux Droits de l'Homme. C'est une des avancées énormes dans la droite ligne vers le rétablissement de la vérité et la réparation des victimes des crimes en République démocratique du Congo, selon le ministère des Droits humains et l'institution président de la République. Reportage Jeff Ngoy.
Le président du comité scientifique mis en place, professeur Luzolo Bambi, explique la mission des experts.
Il s'agit d'élaborer une stratégie nationale de justice transitionnelle pour la République démocratique du Congo, c'est-à-dire conceptualiser les termes de référence de notre justice, élaborer une feuille de route à mettre à la disposition du gouvernement pour que la justice transitionnelle devienne une réalité concrète dans notre pays. Au grand maximum deux mois, les experts vont se réunir pour élaborer ce document de référence.
Dans la plupart des cas, les victimes demeurent sans réparation quand l'État congolais y est condamné par un tribunal. Que fera-t-on des victimes de crimes à l'avènement de la justice transitionnelle? Professeur Nicole Boitia,
directeur de cabinet adjoint
du chef de l'État.
Je ne dirais pas que la réparation est rapide, non. Ça prend énormément de temps parce qu'on doit d'abord repérer effectivement les victimes. On doit savoir si effectivement les faits sont réels. Vous savez que c'est très compliqué tout ça. Dès qu'on a tous ces éléments, je vous garantis que la réparation est au rendez-vous. Mais c'est vrai, ça paraît lent, mais elle est effective.
À quand la mise en œuvre effective de la justice transitionnelle? Le ministre des Droits humains, Fabrice Puella.
On ne décrète pas l'implémentation de la justice transitionnelle du jour au lendemain. C'est tout un processus. Mais nous pouvons dire que depuis que la République démocratique du Congo existe, aujourd'hui, on est déjà très avancé.
Pendant ce temps à Kisangani, la gouverneure de province a remis dimanche dernier un lot important de vivres et non-vivres à la prison centrale de la ville. Madeleine Nikumba a profité de cette visite pour s'imprégner des conditions carcérales des détenus de cette prison. Cette dotation a suscité la joie des pensionnaires ainsi que du directeur de cet établissement pénitentiaire. Selon Victor Kakolongo, directeur de la prison centrale de Kisangani, ce geste tombe à pic. Il exhorte d'autres personnes à emboîter les pas à l'autorité provinciale afin de venir en aide à ces prisonniers. Ces propos ont été recueillis par Jacques Moukonkole.
Lorsqu'il est venu, il a dit qu'au moment, il ne pouvait pas venir, mais bridouit. Il a amené quand même une vache, il a amené du riz, haricots et un peu de médicaments à remettre aux prisonniers. Nous disons grandement merci parce que ce sont des occasions rares. Les prisonniers ont besoin d'une oreille attentive à leur cri et nous sommes là pour transmettre les doléances des prisonniers à l'autorité provinciale. Il a visité les dortoirs des prisonniers, les endroits où ils se couchent, les installations hygiéniques et la promis de pouvoir nous accompagner pendant tout son mandat. Les personnes qui sont privées de leur liberté, les besoins sont illimités. Il y a beaucoup de besoins. L'État fait sa part, les autorités provinciales font leur part, mais je dis bel et bien que chaque personne de bonne volonté qui est touchée parce que c'est une façon d'accomplir la parole de Dieu. J'étais à l'hôpital, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. C'est une façon d'arracher les bénédictions. Donc, nos portes sont grandement ouvertes. Nous demandons à toute personne qui nous écoute de suivre le pas de son Excellence, Madame le Gouverneur de province, venir visiter aussi les prisonniers. Ça sera une façon d'accomplir la parole de Dieu.
Autre nouvelle en plus bref, au Nord Kivu, la Cour militaire du Nord Kivu, siégeant en matière répressive au deuxième degré en chambre foraine à Beni, a annulé la condamnation de Fiston Isambiro, l'un des leaders de la Veranda Mutianga Beni. Il a été condamné à 10 ans de prison ferme au premier degré le 22 avril dernier. Ce verdict a été rendu ce lundi au cours de l'audience sur l'affaire opposant le ministère public au prévenu Fiston Isambiro. Dans son jugement, la Cour militaire a décidé également de renvoyer le prévenu devant les tribunaux de grande instance pour statuer sur les faits qui lui sont reprochés par les tribunaux militaires, notamment l'attentat et la provocation à la désobéissance aux lois de la République. Et puis cette nouvelle, le Kasaï central fait face à plusieurs défis de développement après les violences de Kamuina Sapu. Dans plusieurs secteurs, les populations qui ont subi les affres de la guerre veulent voir cette province au centre du pays être désenclavée, se développer et s'ouvrir. Pour permettre à la population de s'exprimer, Radio Kapi se déplace dans la région pour aborder certaines questions et permettre à la communauté de s'exprimer. François Kadima.
Entre 2016 et 2017, le Kasaï central a été touché par les événements de Kamuina Sapu. Cette situation a coûté la vie à plusieurs et certaines familles ont perdu les leurs. Différents secteurs et projets ont été touchés. Depuis la fin de ces événements, le gouvernement au niveau national et provincial et d'autres partenaires se sont impliqués à travers différents projets, dont les constructions des écoles et d'autres infrastructures de base. Même si les jeunes estiment que le taux de chômage reste encore élevé en province. Certains soulignent que le développement de la région passe également par l'électrification à travers la construction du barrage de Katende qui permettra aux grandes industries de s'installer dans la région.
Si Katende est fini aujourd'hui, relancé est fini aujourd'hui, la plupart des jeunes peuvent entreprendre leurs propres activités et aussi ça va contribuer à la lutte contre le chômage.
Pour la société civile et les opérateurs économiques, il faudrait également réhabiliter la route Kananga-Kalamambouji qui permettra aussi de relancer l'économie de la province.
Pourquoi ces travaux ne démarrent toujours pas malgré l'arrivée avec pompe du président de la République, du premier ministre, membre du gouvernement?
Ces sujets et d'autres seront débattus dans les émissions Dialogue entre Congolais par les auditeurs qui seront produite à Kananga mercredi et jeudi en face du grand public. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En international, alors que le Tchad se récupère de la répression meurtrière des manifestations, Kinshasa accueille ce mardi 25 octobre un sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sur la situation politique dans le pays. 11 pays seront représentés à ces assises en présentiel convoquées par Félix-Antoine Tshisekedi, actuel président de l'organisation. Alors que Djamena veut obtenir le soutien de la CIAC, celle-ci cherche surtout à désigner un médiateur pour la crise. Le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, sera lui-même à Kinshasa mardi au sommet extraordinaire de la CIAC pour demander à la région d'Afrique centrale du soutien et de l'accompagnement pour la suite de la transition. Et puis, 3 Palestiniens ont été tués et près d'une vingtaine ont été blessés tôt ce mardi dans un raid de forces israéliennes à Naplouse, ville de Cisjordanie, occupée d'où opère un nouveau regroupement de combattants, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. L'armée israélienne n'a pas commenté dans l'immédiat ces informations.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le docteur Valentin Tshitenge, secrétaire général de l'Association nationale des personnes vivant avec handicap. Le monde a célébré hier lundi 24 octobre la journée mondiale de la lutte contre la poliomyélite, une maladie invalidante qui fait des victimes en RDC et dans le reste du monde. Docteur Tshitenge parle de la situation épidémiologique de cette maladie en RDC, des stratégies pour l'éradiquer et il met surtout un accent particulier sur l'importance de la vaccination. Il s'entretient ici avec Jean-Pierre Elali Ikoko. Suivez.
Docteur Valentin Tshitenge, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Pierre Elali.
Lundi 24 octobre, le monde entier célèbre la journée mondiale de la lutte contre la poliomyélite. Très brièvement, docteur, qu'est-ce que c'est la polio? Comment l'attrape-t-on? Comment se manifeste-t-elle? Et comment on peut l'éviter?
La poliomyélite est une maladie contagieuse causée par un virus. C'est vraiment une maladie à main sale. Donc les objets suyés, les contacts interhumains peuvent faire que la personne qui est infectée contamine l'autre. Et elle se manifeste comme un syndrome grippal. Mais généralement, après une fièvre, on voit qu'un enfant qui marche déjà ne marche plus. C'est ça qui nous pousse à penser qu'il y a la poliomyélite.
Un enfant de quel âge?
Un enfant de 0 à 5 ans, voire plus, mais qui normalement marchait, qui après une poussée de fièvre ne marche plus, nous pousse à dire de manière opérationnelle qu'il y a un problème de poliomyélite.
Quelle est aujourd'hui la situation épidémiologique de cette maladie en République démocratique du Congo? Pour l'année 2022 seulement, il y a 148 cas, docteur. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cette résurgence dans notre pays alors que la RDC a été déclarée libre de la polio?
Ces statistiques que vous venez de donner sont alarmantes parce que lorsque vous parlez de 148 cas pour seulement l'année 2022, et si on prend les cas cumulés depuis 2017 où on a commencé de pousser des épidémies jusqu'à aujourd'hui, nous avons beaucoup de cas. Le vrai problème qui fait qu'on a toutes ces résurgences, c'est la faible couverture vaccinale. Vraiment, on a des problèmes à ce niveau-là. La vaccination de routine n'est pas vraiment bien suivi par les familles. C'est ce qui fait que la maladie circule.
Donc il faut vacciner.
Il faut vacciner à temps et avoir une bonne couverture vaccinale pour donner de l'immunité à la population.
Depuis quelques années, on a parlé de la campagne synchronisée entre notre pays et les pays frontaliers. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui?
Oui, nous avions mené des campagnes synchronisées parce que, vous voyez, ce sont des pays voisins et je vous ai dit que la poliomyélite est une maladie contagieuse. Il fallait alors vacciner les voisins et nous-mêmes pour nous rassurer que nous avons au moins essayé d'éradiquer la maladie de part et d'autre pour que la maladie ne circule pas entre les frontières. Donc cette campagne avait donné des résultats à cette époque, mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des nouvelles souches qui émergent et qui commencent à donner d'autres épidémies.
Docteur, en 2019, les gouverneurs de province se sont réunis ici à Kinshasa et ils ont pondu une déclaration qu'on a appelée déclaration de Kinshasa en matière de lutte contre la polio, effectivement. D'abord, qu'est-ce que dit cette déclaration et où en est-on aujourd'hui, 3 ans après?
En fait, c'était le forum pour la vaccination qui était sous l'autorité du chef de l'État, où le gouverneur des 26 provinces était réuni autour du chef de l'État pour parler de la vaccination. Ils avaient vraiment pris beaucoup de résolutions, mais dont les résolutions importantes étaient d'allouer les budgets à l'achat des vaccins pour aider les provinces à arrêter la circulation de certaines maladies évitables par la vaccination.
Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui?
Aujourd'hui, il n'y a que la ville-province de Kinshasa qui ne s'est pas encore dotée d'un édit qui organise la lutte pour la ville-province de Kinshasa. Mais il y a plus de 20 provinces qui ont déjà des édits, mais nous pensons que la ville-province de Kinshasa doit aussi se doter de cet édit, parce que pour votre information, notre dernier cas de poliomyélite a été détecté en 2020 à Kinshasa, c'est récent, et que c'est notre gouverneur de la ville de Kinshasa qui avait lu cette déclaration au nom de ses pairs. Nous pensons que la ville-province de Kinshasa doit se doter d'un édit qui organise l'achat des vaccins et surtout l'éradication de la poliomyélite dans la ville-province de Kinshasa.
Vous êtes médecin, vous êtes aussi victime de la polio. Comment cela vous est arrivé?
Et comment vous en êtes sorti?
Un parcours de combattant, l'engagement des parents. C'est vrai qu'à l'âge de 4 ans, j'ai été devenu handicapé suite à une poliomyélite. Les parents ont fait ce qu'ils pouvaient faire. J'ai commencé mon école primaire en situation de handicap. J'ai évolué jusque là où je suis arrivé. Voilà pourquoi je m'engage pour dire aux parents, si les parents respectent le calendrier vaccinal, si les enfants sont bien vaccinés, aucun enfant ne va avoir une béquille ou il va avoir besoin d'une orthèse. Tous les enfants, même s'ils seront atteints par la maladie, ne vont pas devenir personnes handicapées. Donc, j'insiste pour que les parents amènent leurs enfants à la vaccination. C'est le seul moyen de prévenir la poliomyélite. Ici, je parle comme société civile pour dire à l'État, vous devez tenir les engagements. Il y va de l'intérêt de la population congolaise. Nous demandons à l'autorité de tenir les promesses.
Docteur Valentin Tshitenge, je vous remercie.
Voilà, mesdames et messieurs, complètement terminée cette édition du journal. Mise en onde, Dieudonné Nyangasa. Merci à toute l'équipe rédactionnelle à travers les pays, sous la coordination de Richard Junior Kamunga et la supervision de Alain Irung Mushinj. Merci pour votre particulière attention.